Le Handi Plus. Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'FM+, le Handi Plus que vous pourrez suivre tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, de 11h à midi, une heure de programme consacrée aux différents handicaps, le handicap moteur, sensoriel, auditif, visuel, le handicap psychique, le handicap mental ou intellectuel, ainsi que les maladies invalidantes. Le terme handicap désigne la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement, causée par une déficience provoquant une incapacité permanente ou non, menant à un stress ou à des difficultés morales, intellectuelles, sociales et ou physiques. Le terme de handicap renvoie également aux difficultés de la personne en situation de handicap face à son environnement en termes d'accessibilité, d'expression, de compréhension ou d'appréhension. Il s'agit autant d'une notion sociale que d'une notion médicale. Ces limitations d'activité et de participation restent variables selon les contextes nationaux ou sociétaux. Le handicap affecte 80 millions de personnes en Europe et 650 millions dans le monde entier, voire 1 milliard de personnes selon le rapport mondial sur le handicap de l'OMS et de la Banque mondiale. La prévalence du handicap est estimée à 15% de la population mondiale. Une déficience, c'est une perte de substance ou altération définitive ou provisoire d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. Si les déficiences ont toujours une cause organique ou psychique, elles recouvrent un domaine plus vaste que la notion de trouble ou de maladie. Cela signifie qu'un individu souffrant d'une déficience ne doit pas nécessairement être considéré comme un malade. C'est la raison pour laquelle FM+ souhaite apporter des réponses claires pour les personnes qui sont en situation de handicap ainsi que pour leur entourage, en invitant sur ce plateau des professionnels de santé, des associations et parfois des témoignages de personnes en situation de handicap ou de leur entourage. FM+, fidèle à sa devise, la différence nous rassemble. Pour cette première du Handi Plus, nous allons nous intéresser à la dyslexie. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Madame Zoubida Ben Ali Moreau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la maman de Maïssa, qui aura bientôt 15 ans. Elle est scolarisée au collège Frédéric Mistral à Lunel, en classe de 4e.
Oui, c'est ça.
Très bien. J'ai le plaisir aussi de recevoir Dorian Wittmann. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orthophoniste, vous exercez à Juvignac et vous êtes secrétaire de l'association APOH, l'APO.
C'est ça, l'association de prévention en orthophonie de l'Hérault.
Très bien. Alors, pour vous, hein, Madame Ben Ali Moreau, on y reviendra après, hein, concernant donc Maïssa. Et là, je me tourne vers vous, hein, Dorian Wittmann. Et je ne vous apprends rien, bien sûr. La dyslexie a été reconnue comme un trouble du développement des acquisitions scolaires par l'Organisation mondiale de la santé en 1991. Est-ce pas un peu tard, quand même?
Alors c'est un peu tard, c'est un peu tard surtout de reconnaître ce qu'est la dyslexie. Hein. Auparavant, on parlait de dyslexie avec des origines essentiellement psychologiques. Aujourd'hui, on reconnaît dans la dyslexie des difficultés véritablement cognitives, sur le fonctionnement cognitif de l'enfant et puis ensuite qui persistent à l'âge adulte.
Très bien. Donc la question suivante, c'est existe-t-il plusieurs formes de dyslexie ou tout simplement doit-on parler de comorbidité? Je rappelle juste que pour ceux qui nous écoutent, hein, qu'en médecine, la comorbidité désigne la présence d'un ou de plusieurs troubles associés à un trouble ou une maladie primaire.
Alors pour ce qui est de la dyslexie, qui est le trouble spécifique qui touche le langage écrit, on va avoir très souvent une comorbidité avec des troubles spécifiques du langage oral, qu'on appelle en France la dysphasie, des troubles spécifiques de la cognition mathématique et du raisonnement, des troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, également des troubles de l'acquisition de la coordination.
Très bien, mais alors aujourd'hui, on va mettre le mot, si je puis dire, sur la dyslexie développementale.
Voilà, alors on va peut-être expliquer ce que ça signifie.
Hein. Exact, oui, bien sûr.
La dyslexie, donc on a dit, ça touche le langage écrit, donc avant tout, il faut revenir au niveau du langage. Et développemental, ça signifie simplement que c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire le développement du parcours neurologique des informations nécessaires à la mise en place du langage écrit. Donc là, on parle de l'étiologie, hein, des causes de la dyslexie, d'où ça peut venir, c'est encore un petit peu difficile de l'affirmer avec certitude. On a des facteurs de risque génétiques, hein, il y a un facteur héréditaire qui est certain, même si on ne peut pas isoler un gène de la dyslexie, et puis des facteurs environnementaux qui vont soit protéger, soit au contraire augmenter le risque et la sévérité de la dyslexie.
Oui, parce qu'on dit que en matière de troubles de neurodéveloppemental, ça se manifeste indépendamment du contexte éducatif, social ou psycho-affectif de l'enfant.
Voilà, c'est la définition, effectivement, de tous les troubles neurodéveloppementaux. Cette définition se fait par exclusion d'autres troubles, c'est-à-dire que si on veut parler de troubles spécifiques demande que le trouble soit isolé indépendamment d'autres difficultés. C'est-à-dire qu'on va trouver une dyslexie chez des enfants qui n'ont pas de déficience intellectuelle, donc ce sont des enfants normalement intelligents, des enfants qui n'ont pas de troubles sensoriels de type surdité ou cécité, qui à eux seuls expliqueraient des difficultés sur le langage écrit. Il n'y a pas non plus d'origine psychologique, psycho-affective, qui aurait provoqué cette dyslexie. C'est vraiment neurodéveloppemental par exclusion de tous ces critères.
Très bien. Donc en matière de contexte, c'est vrai qu'il joue un rôle important dans l'expression du trouble, mais il n'est pas à l'origine des difficultés rencontrées.
Il n'est pas à l'origine, non, mais il va le favoriser. Donc il y a de deux manières. Vous avez tout d'abord le facteur de risque, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui fait que si l'enfant a potentiellement le risque de développer une dyslexie, tout ce qui est environnemental, tout ce qui est à côté, c'est-à-dire le développement de son langage, le développement socio-culturel dans lequel il évolue, toutes ces conditions psycho-affectives également, vont augmenter le risque que la dyslexie apparaissent de manière plus sévère. Hein. C'est juste une augmentation du risque, ou au contraire, quand l'environnement linguistique, socio-éducatif, psycho-affectif est porteur, la dyslexie, même si elle apparaît, pourra être dans des conditions plus limitées.
Très bien. Donc, le diagnostic, quand même, reste une phase très importante pour pouvoir vraiment, à la base déjà, pour pouvoir cerner vraiment le trouble que peut relever le sujet.
Alors tout à fait, le diagnostic est important. Le souci, c'est que le diagnostic d'une dyslexie, on ne va pouvoir le porter véritablement que lorsque l'enfant a appris à lire et à écrire.
Hein. À commencer l'apprentissage.
Voilà. Par contre, les professionnels de santé sont aguerris pour retrouver dans le développement précoce de l'enfant des signes qui vont pouvoir nous alerter sur une potentielle arrivée, un potentiel développement de la dyslexie. Donc dès la maternelle, on peut suspecter le développement d'une dyslexie et donc être vigilant. Hein. Et les professeurs des écoles sont de plus en plus vigilants à tout ça, notamment à des difficultés au niveau du langage, au niveau de la parole, au niveau de l'écriture, du calcul, et envoient en consultation, suite à des repérages, ces enfants pour qu'on puisse valider ou invalider ces potentielles difficultés et mettre en place une prise en charge à ce moment-là qui sera une intervention qui sera précoce. Plus l'intervention
pluridisciplinaire, il y a le médecin,
probablement
le psychologue,
pluridisciplaire,
et
effectivement.
Il y a
d'abord, si vous voulez parler du parcours, effectivement, généralement, c'est les parents et les professeurs des écoles qui voient l'enfant en premier parce que c'est eux qui sont en contact au quotidien avec l'enfant. Ensuite, il y a le médecin, hein, le médecin scolaire, le médecin généraliste, ça peut être des médecins spécialisés, voilà, le généraliste, le médecin de famille, médecin spécialisé qui peut être un neuropédiatre, un pédopsychiatre, et qui vont à ce moment-là orienter vers une évaluation qui généralement est pluridisciplinaire, donc chez l'orthophoniste, mais ça peut être également chez le psychomotricien, l'orthoptiste, l'ergothérapeute, chez un psychologue, voilà.
Très bien. Justement, on parle des professeurs des écoles qui sont en contact au quotidien avec les enfants et qui sont, c'est eux qui peuvent sentir ou cerner cette problématique donc, au niveau de l'apprentissage. Pensez-vous qu'en matière de formation des professeurs des écoles, il y a suffisamment de connaissances qui sont apportées au cours de leur formation pour qu'ils puissent être donc amenés à mieux cerner ou à mieux accompagner également un sujet qui relèverait comme ça de la dyslexie.
Alors il y a deux aspects dans votre question. Un, il y a d'abord l'aspect du savoir repéré et puis ensuite du savoir accompagné. Donc dans le savoir repéré, moi je ne suis pas professeur des écoles, je pense qu'effectivement dans leur formation, on leur parle des troubles en général, mais de manière assez pauvre. Hein.
Oui, mais vous, en tant qu'orthophoniste, vous êtes en contact, parfois en relation avec des professeurs des écoles. C'est... Mais d'après vous, est-ce que vous avez pu percevoir ou sentir qu'au cours de leur formation, on leur apporte quand même suffisamment d'éléments, d'outils pour pouvoir... être à mieux
de... Suffisamment d'outils pédagogiques, ça c'est certain. Mmh. Après, de repérage de la dyslexie en elle-même, non. Hein, c'est pas quelque chose qui est fait. Le repérage en lui-même va être aussi quelque chose qui est réalisé par d'autres professionnels, comme le médecin scolaire. Hein. Mmh. Le psychologue scolaire va également voir ses enfants. Donc, dans leur formation initiale, probablement pas. Par contre, ensuite, dans leur parcours professionnel, les professeurs des écoles sont en contact avec d'autres professionnels. Nous-mêmes, les orthophonistes, nous discutons très, très fréquemment avec les professeurs des écoles et on échange. Nous, on a besoin d'eux, de ce qu'ils observent au quotidien dans les acquisitions scolaires et eux ont besoin également de savoir quels sont les signes qui sont plus évocateurs pour repérer ces troubles-là. Ensuite, pour ce qui est de l'accompagnement, c'est-à-dire une fois que le diagnostic est posé, là encore, c'est un échange, c'est une discussion entre tous les professionnels. Vous parliez tout à l'heure d'intervention pluridisciplinaire. Quand un enfant a été diagnostiqué avec un trouble neurodéveloppemental, comme les troubles des apprentissages, on fait à l'école, à la demande des parents ou de l'école, des équipes éducatives qui permettent de réunir tous les professionnels de santé, professionnels de l'éducation nationale, et d'échanger sur l'enfant, sur ses difficultés, la nature de ses difficultés, l'évolution de ses difficultés, et de voir comment l'aider au mieux, et de mettre en place à ce moment-là des aménagements si c'est nécessaire.
Donc grâce au bilan, hein, on pourra vraiment caractériser le degré de sévérité du trouble. Et qui permettra après un accompagnement plus adéquat, plus
tout
adapté
à
l'enfant.
Et ensuite, on réalise des bilans pour voir l'évolution de ces enfants, pour voir justement, réadapter la nature des aménagements. Hein. Peut-être que des aménagements qui étaient importants au départ, l'enfant n'aura plus besoin des mêmes, ou peut-être pas, n'en aura pas besoin de la même quantité. Hein. Donc tout ça évolue et on en rediscute régulièrement.
Régulièrement, c'est-à-dire tous les trimestres, tous les semestres?
Non, en général, ça dépend. Hein. Ça peut être pour les cas les plus sévères, effectivement, tous les trimestres, voire deux fois par an. Sinon, en général, on se réunit une fois par an.
Et à ce niveau-là, les professeurs des écoles, vous pensez qu'ils sont suffisamment... ils sont suffisamment, donc... ils sont bien accompagnés, ils sont bien munis, on va dire, pour accompagner comme ça un enfant qui...
Alors, le professeur des écoles...
Ou il s'en remet uniquement aux professionnels de santé et il va s'adapter...
Non, il a déjà des réponses d'ordre pédagogique qu'il a déjà mis en place et qui se sont avérées généralement inefficaces. Mmh. C'est pour ça qu'il y a eu un appel aux professionnels de santé, parce qu'il y a eu suspicion en se disant... Bon, les aménagements, le soutien scolaire que l'on a pu donner au sein de l'école ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner habituellement chez un enfant qui aurait simplement un retard d'apprentissage, hein, un décalage dans l'apprentissage. Et donc il y a suspicion que ce soit finalement pas un retard mais un trouble spécifique. Il nous l'envoie et à ce moment-là on discute d'aménagements plus particuliers. Et là, ces aménagements, on essaie de voir avec le professeur ce qui est possible de faire en classe. On ne peut pas tout faire, effectivement. Le professeur a de nombreux élèves dans sa classe. Oui. Il doit s'occuper de beaucoup de choses. Mmh. On essaie de voir ce qui est le plus important pour l'enfant dyslexique, de voir ce que le professeur peut mettre en place comme adaptation. Parfois, il suffit de pas grand-chose. On en discute. Mmh. Hein. Donc, est-ce que le professeur a suffisamment d'outils, il peut mettre en place ces outils. Après, est-ce qu'il les a généralement, ça se discute avec les professionnels de santé. On les décide ensemble.
D'accord. Alors, si une autre question. Si on admet, vu qu'on parle des professeurs des écoles, si on admet que 5 à 10% des enfants présentent des difficultés spécifiques d'apprentissage de la lecture, cette estimation, bon, bien sûr, elle peut varier fortement d'une étude à l'autre, selon les critères de définition et la méthodologie retenue. Quand moi j'entends méthodologie, mon réflexe, ça me renvoie à la méthode globale qui elle, a fait, si je peux me permettre, a fait couler de l'encre et continue d'en faire couler, et pas uniquement de l'encre, hein, si vous voyez ce que je veux dire.
Effectivement, ça a été un très long débat et de nombreuses questions de parents, généralement, le remettent en avant. Il faut bien comprendre qu'un enfant qui a un trouble spécifique du langage écrit et avait donc un potentiel génétique de développement de la dyslexie. C'est-à-dire que, quelle que soit la méthode d'apprentissage de la lecture, cet enfant serait devenu dyslexique. Après, le degré de sévérité, on l'a vu, peut varier en fonction de l'enfant lui-même, de son... De ses capacités initiales, mais également de l'environnement. Et bien sûr que la méthode d'apprentissage fait partie de cet environnement qu'on lui fournit. Un enfant dyslexique va plutôt avoir besoin d'une méthode dite syllabique qui va lui apprendre à associer les sons entre eux, les assembler pour faire des syllabes, les syllabes entre elles pour faire des mots, etc. Mmh. L'habituer à reconnaître globalement des mots ne serait pas la bonne technique. Ceci dit, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus, à ma connaissance, de méthode globale pure. Hein, c'est parfois une méthode semi-globale dans les premiers mois du CP, et très largement, les professeurs vont vers une méthode qui est largement syllabique. Oui. Hein. Donc, une méthode globale pure, aujourd'hui, on n'en voit plus. Quand bien même il y en aurait, elle n'aurait fait qu'augmenter le degré de dyslexie, c'est pas la méthode qui engendre la dyslexie.
D'accord, oui, parce qu'il y avait déjà une prédisposition.
Exactement.
Mais donc, de ce côté-là, Dorian Wittmann, pour vous, et l'éducation nationale est restée quand même très à l'écoute et ouverte, donc avec, et en contact surtout avec les professionnels de santé qui ont entendu cet appel au niveau de cette méthode globale qui... quelque part, n'était pas si adapté que ça.
Je pense, puisque les professeurs de CP, comme je vous disais, utilisent très majoritairement d'autres méthodes que la méthode globale. Donc effectivement, hein, il y a de toute façon un partenariat, une ouverture d'esprit, on va dire, globale. Après, comme dans toutes les professions, il y a des personnes qui seront plus fermées que d'autres, à l'écoute d'une méthode différente, à l'écoute de mise en place d'aménagement. C'est pareil chez tous les professionnels, y compris chez les orthophonistes.
Très bien. Une autre question. Le degré de sévérité de la dyslexie est fortement lié à la différence qu'il peut y avoir entre la forme écrite, le graphème, et la forme sonore. Un mot là-dessus, Dorian Wittmann.
Alors, on va peut-être expliquer ce qu'est la lecture pour expliquer ça. Hein. La lecture, elle fonctionne à partir de deux stratégies concomitantes. Une stratégie d'assemblage qu'on apprend généralement donc au début du CP, qui consiste, je vous en ai parlé, à assembler des sons entre eux dans le bon ordre à partir de leur correspondance avec des lettres pour en faire des syllabes. Cette stratégie nous permet de lire tout et n'importe quoi. On est capable de lire y compris des mots qui n'ont pas de sens. On devient possesseur du code, Hein. La deuxième stratégie, c'est que l'enfant, au fur et à mesure de son expérience de lecture, va rencontrer des petits mots qu'il revoit souvent, souvent les mêmes. Et il va donc les mémoriser visuellement, il va mémoriser l'ordre des lettres, et il va être capable de ce fait de les reconnaître, ces mots, visuellement, sans être obligé de les réassembler. Hein, sans être obligé de dire « b-a-ba », bien d'un seul coup d'œil, il va pouvoir reconnaître son mot. Comme un enfant plus petit qui ne sait pas lire peut reconnaître le nom d'une marque sur un produit, sans pour autant savoir lire. Hein. Il reconnaît une photo, on va dire. Et le bon lecteur va utiliser ces deux stratégies concomitantes. La deuxième, celle qui permet de reconnaître globalement les mots, permet de lire plus vite. Donc le degré de sévérité dont vous parliez va dépendre des stratégies qui vont être mises en cause. Lorsque la stratégie d'assemblage des sons est remise en cause, l'enfant a du mal à lire des mots qu'il ne connaît pas encore. Donc dès qu'il est face à un mot nouveau, eh bien, il peine, il va généralement se tromper, inverser des lettres, se tromper dans la production des syllabes. Ça va être le « on » qui va être lu « no », ça va être la syllabe « pra » qui sera lu « par », par exemple. Ça sera aussi lire un mot pour un autre. Donc là, c'est quelque chose qui va être embêtant, parce que même au collège, lorsqu'il aura compensé une partie de ses difficultés, il va de toute façon tomber face à des mots qu'il ne connaît pas. Des fleuves en géographie, des mots spécifiques en sciences, en littérature, etc. Donc ça reste très, très invalidant. Et c'est la majorité des dyslexies. Lorsque la deuxième stratégie, la stratégie d'adressage, c'est-à-dire reconnaître un mot qu'on a déjà vu plusieurs fois et qu'on a mémorisé, lorsque cette stratégie est touchée, ça veut dire que l'enfant n'a pas réussi à construire dans sa tête une sorte de dictionnaire de mots écrits auquel il peut faire référence rapidement, et de ce fait, il va être systématiquement en train de redécoder, de refaire le b-a-ba. Donc là, ça donne une lecture qui est très syllabée, très hachée, très lente. Ce déficit est assez rare lorsqu'il est isolé. Généralement, on trouve une dyslexie qui est mixte, qui touche, qui atteint les deux stratégies de la lecture.
Très bien. Alors là, vous avez évoqué il y a quelques instants le collège, hein, l'évolution donc de la scolarité, des nouveaux mots que l'on peut découvrir, hein, comme vous avez dit, le nom de fleuve et tout ça. Ça me tend la perche pour me tourner vers Madame Zoubida Ben Ali Moreau. Hein. Vous êtes la maman de Maïssa, qui aura bientôt 15 ans. Elle est scolarisée au collège Frédéric Mistral à Lunel, en classe de 4e. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire part du quotidien de Maïssa, de sa scolarité, de son parcours, et également du soutien que vous lui apportez, vous, sa famille et son entourage?
Alors voilà, Maïssa, oui, elle va avoir 15 ans au mois de juillet. Dès sa petite enfance, déjà elle a parlé vers l'âge de 3 ans et demi, elle a parlé, une fois qu'elle a été à l'école, et pourtant elle était à la crèche et tout ça avant. Et moi je me suis rendu compte en tant que maman que ma fille elle avait un trouble de langage dès la maternelle. Mais par contre, au niveau de l'école, on me disait qu'elle était encore petite, que je devais la laisser vivre. Voilà, que j'étais...
La laisser évoluer à son rythme.
À son rythme, etc. etc. Et arrivé le CP, en première année de CP, elle n'a rien fait. Elle rendait ses cahiers blancs. Voilà, elle ne faisait rien. Elle était ailleurs, elle était... en CE1, pareil. Et on l'a fait redoubler au CE1, par contre. Voilà, et elle a passé une année toute son école primaire, avec beaucoup de difficultés, avec un bilan orthophonique, par contre, là, en 2007.
Il s'est fait à partir de quand, justement, le bilan orthophoniste? Parce que c'est là, après, où c'est important, quoi, pour, au moment où le diagnostic se fait.
Exactement.
Et pour qu'on puisse en mettre en place, comme ça, tous les dispositifs qu'il faut pour l'accompagner.
Voilà. Alors, comme personne ne voulait nous écouter, personne ne voulait m'écouter, pour aller voir une orthophoniste, parce que chaque fois que j'allais voir une orthophoniste, on me disait laissez-la tranquille, de toute façon on peut rien faire avant CE1, CE2, voilà, c'est-à-dire 8-9 ans.
Alors, entre guillemets, si je peux me permettre, on vous a taxé d'anxieuse.
Voilà, exactement, d'une mère poule. Voilà, mais c'était pas ça, en fin de compte, c'était pas ça. Et enfin, en 2007, J'ai eu un bilan orthophonique à l'hôpital La Péronie, de Montpellier, et qui ont bien précisé que Maïssa était dysleksique, mais dysphasique aussi. Voilà.
Dysphasique. Dorian Wittmann, voilà. Vous pouvez nous apporter des précisions.
Donc voilà, c'est aussi un trouble neurodéveloppemental qui touche la communication et qui va concerner la parole ou le langage. Donc il y a différentes sortes de dysphasie. Ça peut être sur la parole, la production des sons, des syllabes qui ne se fait pas dans le bon ordre. Donc là, l'enfant peut avoir des difficultés à prononcer les mots. Et ça peut toucher également la construction du vocabulaire. L'enfant a du mal à trouver comment s'appelle le mot, même s'il connaît ce mot-là. Ça peut toucher également la syntaxe, l'organisation des mots dans la phrase, où l'enfant a du mal à dire les bonnes prépositions, à donner les bonnes particules après des verbes. Donc il y a des finesses du langage que l'enfant a du mal à acquérir et à automatiser, même s'il les comprend, ces finesses.
Et ça apporte donc un langage un petit peu, si je puis dire, décousu.
Voilà, ça peut soit, si c'est le versant de la production du langage qui est touché, effectivement, c'est quelque chose qui va être audible, puisqu'on va s'apercevoir, tiens, l'enfant parle un peu bizarrement.
On peut très vite le cerner.
Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui se voit davantage. Dans l'autre cas aussi, si c'est la réception du message qui est touchée, ce sont des enfants qui ont du mal à identifier les sons et qui ont du mal également à comprendre le message, à comprendre la subtilité des phrases. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, c'est simplement que le code du langage oral a subi un trouble qui fait que ça les empêche de bien comprendre.
Très bien. Donc je reviens vers vous, Madame Benali Moreau. Et donc là, depuis donc la CE1, lorsqu'il y a eu ce diagnostic de fait à l'hôpital La Péronie de Montpellier, un dispositif a été mis en place, un accompagnement.
L'accompagnement avec un orthophoniste. Et ensuite, on était à l'étranger à l'époque, il faut dire. Bon, il faut préciser, on était à l'étranger. Et en 2011, on est revenu sur Lunel en France.
Pour des raisons professionnelles.
Et quand on est revenu, un bilan orthophonique, là ça a été pris un peu plus en charge, et bien sûr la rentrée de la sixième qui est très compliquée pour une fille comme ma fille, et qui a tous ces troubles de langage, de la dyslexie, de la dysphasie. C'est vrai qu'elle a été depuis septembre 2011, elle est suivie par une orthophoniste à Lunel, qui ça se passe très très bien avec elle. Mais simplement, quand elle retourne à l'école, celle-là, c'est le combat de tous les jours, tous les matins. Alors elle trouve des méthodes elle-même, parce que c'est une battante, une fille très 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 battante, et moi j'ai confiance à elle. De toute façon, nous ses parents, on a confiance à elle. Elle se lève, par exemple, elle a trouvé sa méthode toute seule. Elle se lève à 5h du matin pour faire ses devoirs
chaque jour,
toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Elle se lève à 5h du matin pour faire ses devoirs, puisqu'elle dit que elle se rappelle mieux, elle retient mieux, la maison est tranquille, sa tête est vide, etc. C'est ce qu'elle dit. Je dis ces mots à elle. Et par contre, dès qu'elle est à l'école, c'est le stress. Elle a peur d'aller à l'école, elle a une phobie d'aller à l'école. L'année dernière, c'était une catastrophe. Et avec la psychologue de l'école, l'infirmière de l'école, c'est vrai qu'il y a eu une grande aide, je le reconnais, je suis à 100%...
Qui a été très à l'écoute, hein,
très
l'infirmière.
Très à l'écoute, oui, l'infirmière, la psychologue du collège Frédéric Mistral, j'ai rien à dire. Certains professeurs, mais, voilà, c'est le mais, certains professeurs ne comprennent pas que Maïssa, ce n'est pas un cancre, ce n'est pas une feignante, elle ne s'en fout pas.
Il y a confusion pour
eux. Au contraire, Maïssa, elle aimerait être une fille, une adolescente brillante, mais avec tous les moyens qu'elle se donne et avec tout le travail qu'elle fait. Et quand on lui met un zéro, ou bien tu peux faire mieux, ou bien qu'est-ce que je vais faire de toi, c'est des mots qui la blessent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, cette année, la rentrée 2013-2014, elle est dans une très bonne classe, ça je le reconnais aussi. On va dire à 70% des professeurs la comprennent, la soutiennent, ça je le reconnais. Mais il y a certains qui croit qu'elle est fainéante. Mais je répète, pourtant je suis très engagée dans le collège, puisque je fais partie d'une association de parents d'élèves élus. Je participe au conseil de classe, et ça c'est pour elle que je le fais d'abord, et pour les autres enfants bien sûr. Et chaque fois je suis en train de dire, ben non, ma fille elle n'est pas fainéante, je suis là. Et...
Oui, mais ça après, bon, c'est une question de confusion.
Oui,
après,
de confusion, voilà.
Certains professeurs peut-être n'ont pas été confrontés aussi à ce type à la dyslexie au collège, parce que vu que c'est souvent en école primaire qu'on rencontre ça, et que quand c'est diagnostiqué assez tôt, des outils sont mis en place, un dispositif est mis en place, et c'est vrai que lorsqu'on arrive au collège, eh ben, y a quand même une évolution qui est faite, et peut-être que les professeurs de collège sont peut-être moins habitués à rencontrer ce type de...
Alors c'est malheureusement pas toujours diagnostiqué suffisamment tôt. Hein. Déjà là, vous avez eu un bilan orthophonique en CE1, oui. Vous pouviez avoir un bilan orthophonique beaucoup plus tôt, en maternelle, en CP. Il n'y a pas de souci là-dessus. On n'est pas obligé d'attendre pour faire un bilan orthophonique. L'étiquette, hein, le diagnostic de troubles spécifiques du langage écrit, effectivement, demande qu'on ait pu observer un décalage suffisamment important par rapport à l'acquisition de langage écrit. Donc cette étiquette-là, effectivement, elle ne peut être posée que lorsque l'enfant a appris suffisamment de temps, hein, pour la lecture ou l'écriture. Mais ceci dit, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a des signes prédictifs ou des signes qui peuvent nous alerter sur le développement de la dyslexie. Mmh. Et c'est important donc de les voir avant. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, pour l'école primaire, effectivement, c'est généralement un climat plus familial. On arrive à discuter plus simplement avec un interlocuteur qui est le professeur des écoles. Et quand on arrive au collège, il y a beaucoup plus de professeurs. Des exigences également qui sont plus importantes, puisqu'on arrive dans une scolarité plus complexe, c'est normal. Et on doit faire face donc à une diversité de professeurs avec leur propre personnalité, leur propre vécu.
Exactement.
Moi, je dirais pas que les professeurs au collège ont moins d'expérience avec la dyslexie. Hein. Il y en a quand même, pas mal de dyslexiques au collège. Simplement, la mise en place des aménagements demande une adaptation spécifique qui parfois n'est pas comprise ou n'est pas acceptée par les professeurs parce qu'ils ont une exigence de programme et d'évaluation. Et lorsqu'on demande, par exemple, d'évaluer différemment, il y a toujours la suspicion de favoriser l'enfant qui est dyslexique par rapport aux autres enfants, alors que c'est simplement le mettre sur un pied d'égalité pour le juger selon ses performances et pouvoir faire en sorte qu'il soit valorisé et ainsi poursuivre. Parce que ce que dit madame est important. Lorsque l'enfant est en difficulté, lorsqu'on ne reconnaît pas cette difficulté, qu'est-ce qui se passe si l'enfant n'a pas suffisamment un climat porteur à la maison, si l'enfant n'a pas un caractère battant comme Maïssa, l'enfant abandonne tout simplement. On ferait la même chose en pareille situation. On se fait étiqueter de cancre à longueur de journée.
Et là, l'échec est assuré.
L'échec entraîne encore de moins bonnes performances dans les domaines des apprentissages, et c'est un cercle vicieux. Hein. Donc là, c'est difficile d'en sortir. Il faut valoriser ce qui est réalisé par l'enfant, non seulement au niveau de ses apprentissages, dans les limites de ce qu'il sait faire, mais il faut le valoriser pour l'encourager à poursuivre, même si on sait que ça lui demande énormément d'efforts. Et donc énormément de fatigue, et c'est sûrement pour ça que votre fille le soir est fatiguée, et c'est difficile pour elle de faire ses devoirs, de faire face à la quantité de devoirs qu'elle préfère les faire le matin.
Très bien. On fait une courte pause. Vous êtes sur FM+, c'est la première du Handi+, le magazine consacré au handicap. On se retrouve juste après ceci.
Avec un piano devant moi, avec un violon dans la voix, avec de l'encre, avec des larmes, pour les putains, les jolies dames. J'écris en vers et en bouquet. J'écris debout, j'écris inquiet. Noyé d'idées et de tabac, j'écris ce que je ne vis pas. C'est bien trop loin. Je n'irai pas jusque-là. J'écris avec ma solitude, avec des fantômes et des croix. J'écris avec la certitude de me tromper à chaque fois. J'écris parce que j'ai toujours froid. J'écris les rêves que je vous dois. J'écris sur les murs de la ville des slogans d'amour inutiles. Vos cœurs sont blindés ou trop froids. Vos yeux regardent mais ne voient pas. J'attends avec joie et colère des wagons de vocabulaire. J'écris en ruminant des fleurs. J'écris parce que j'ai toujours peur de ne plus rire. Ne plus sourire quelquefois. J'écris en force et en silence. Amour, fantaisie, mélodrame, pour souiller cette page blanche, comme on fait l'amour à ces femmes qui n'en peuvent plus d'innocence. J'écris pour apprendre à mentir, j'écris pour apprendre à mourir, pour ne plus porter cette croix. J'écris, oh, 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 le mal que je vous dois. J'écris jusqu'à la déchirance. Oh, le talent, ça n'existe pas. J'écris de toute mon enfance les souvenirs que je n'ai pas. J'écris pour ne plus avoir froid. J'écris, oh, j'écris. Et enfin, je suis roi.
Vous êtes sur FM+, pardon. C'est la première du Handi+, un nouveau programme sur lequel nous allons parler de handicap et qui sera diffusé chaque deuxième vendredi du mois. Je vais y arriver. Et pour cette première, j'ai le plaisir de recevoir Dorian Wittmann, qui est orthophoniste, qui exerce donc à Juvignac, et de Madame Zoubida Ben Ali Moreau, qui est la maman de Maïssa, qui aura bientôt 15 ans et qui est scolarisée au collège Frédéric Mistral à Lunel en classe de 4e. Dorian Wittmann, en classe, la plupart des sujets, hein, des enfants qui relèvent de la dyslexie sont équipés d'un outil informatique, d'un ordinateur. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, sur cet outil ? Apporte-t-il vraiment une solution, une grande facilité à l'apprentissage et surtout à l'évolution de son apprentissage ?
Lorsqu'il est bien utilisé, l'outil informatique est indéniablement un outil qui va mieux garantir une meilleure scolarité de l'enfant. C'est-à-dire qu'avec l'outil informatique, déjà le problème du graphisme qui souvent peut être perturbé, hein, une écriture qui n'est pas toujours lisible chez l'enfant dyslexique, va être réglé parce que la typographie est stable sur l'ordinateur. Mmh. Ensuite, vous avez un correcteur d'orthographe là, qui va également soulager une partie de l'orthographe qui va au moins la rendre phonétique. phonétiquement lisible, ce qui n'est pas toujours le cas à l'écrit.
Et qui va faciliter donc la tâche à l'élève.
Voilà, exactement, ça va être plus simple pour lui et également pour ceux qui vont le relire. Vous avez également la possibilité avec l'outil informatique d'avoir une lecture vocale. Donc ça signifie que ce qui est sur l'ordinateur peut être lu par l'ordinateur et non pas par l'enfant. Donc l'enfant va moins se fatiguer à lire, puisque la lecture reste une tâche qui est pénible. Même lorsque l'enfant a compensé avec des stratégies et qu'il arrive à lire un texte sans trop d'erreurs, ça reste une tâche pénible, ça le fatigue. Et ça ne se voit pas, hein, c'est quelque chose d'assez insidieux. Donc la lecture vocale est intéressante, ça peut être pour les plus jeunes, l'ordinateur va lire la poésie plusieurs fois. Ça va être pour les plus âgés, l'ordinateur va lire le texte littéraire qui est à lire en français notamment. Donc pour ça, vous avez sur Internet des textes qui sont disponibles en lecture audio et qui permettent donc à l'enfant dyslexique d'avancer dans sa scolarité. Sans ça, il faut bien savoir que l'enfant dyslexique ne pourrait pas lire confortablement la même quantité d'écrits qu'on lui demande et de ce fait ne pourrait pas apporter le même niveau de compréhension sur l'analyse d'un texte, sur des compétences qu'on lui demande. C'est-à-dire que l'enfant dyslexique reste toujours à un niveau du code. Il est toujours en train de faire son décodage des mots. C'est de l'énergie qu'il utilise à ça, alors que les autres enfants ont automatisé ce passage-là du code et se concentrent sur l'analyse du sens. Ce qui est important dans la lecture, c'est le sens. Dans la scolarité, c'est l'accès aux connaissances. Et c'est en cela que c'est embêtant pour l'enfant dyslexique. Il n'accède pas à certaines connaissances juste parce que le code à l'entrée est difficile pour lui.
Donc en classe, déjà pour un élève dyslexique, lui laisser plus de temps pour la lecture.
Il faut lui laisser plus de temps. Quand c'est pas possible, il faut enlever une partie de ce qui est à lire ou une partie de ce qui est à faire dans les devoirs, effectivement. Pour revenir à l'outil informatique, vous avez aussi l'utilisation de clés USB. Le professeur peut mettre les exercices ou les cours sur clé USB, l'enfant peut les emporter chez lui plus facilement au lieu de noter ses devoirs. Il peut également faire ses interrogations sur l'outil informatique. Tout ça peut être mis en place. Vous avez également le logiciel Pronote, si je ne me trompe pas, dans les établissements scolaires, qui normalement permet à chaque enfant d'avoir de disponible sur Internet le contenu du cours et les devoirs à faire au jour le jour. Donc là, lorsque c'est mis à jour véritablement chaque jour, c'est quelque chose de très intéressant pour l'enfant dyslexique qui va pouvoir aller retrouver son cours directement sur Internet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien.
Et à ce niveau-là, tous les collèges sont équipés? Est-ce qu'on peut dire ça ou...
Je ne sais pas honnêtement si tous les collèges sont équipés. Il me semble que c'est quelque chose qui est national, donc je serai d'avis de vous répondre oui. Après, par expérience, tous les professeurs ne semblent pas participer activement à ce logiciel et de ce fait, certains cours n'auront que le plan et pas le contenu. Et ce qui est embêtant pour les enfants dyslexiques, c'est que quand on leur demande de recopier le cours en classe, la copie, ça passe d'abord par de la lecture. Lorsque l'enfant va lire la phrase qui est écrite au tableau, il va probablement parfois mal la lire. Il va donc écrire quelque chose qui n'est pas du tout ce qui est écrit au tableau. Alors ça aussi, ça soulève parfois les adultes qui ne connaissent pas bien la dyslexie, qui se disent « mais il a le modèle devant les yeux ». Hein, donc ça énerve. Et oui, il a le modèle devant les yeux, sauf que ce code-là, il n'arrive pas à l'analyser dans le bon ordre. Donc la copie est complètement inutile. Pareil dans l'apprentissage, hein, quand on veut faire apprendre des mots d'orthographe ou une leçon à un enfant dyslexique, généralement, la copie ne va pas du tout être avantageuse. Hein. Moi, j'ai déjà vu dans des punitions des enfants qui devaient copier 50 fois un mot et qui 50 fois, le mot avait une écriture différente.
Différente, oui, à chaque phrase, à chaque ligne.
Voilà, sans qu'ils s'en rendent compte.
La reformulation est importante également en classe de la part du professeur à l'élève.
Effectivement, elle va être d'autant plus importante que l'enfant, si l'enfant a un problème de langage oral, donc on évoquait la dysphasie tout à l'heure, on va simplifier la phrase de consigne, notamment. On va pouvoir la raccourcir, on va pouvoir utiliser des mots plus courts. Et chez l'enfant dyslexique qui n'a pas de problème de langage oral, la reformulation, elle va être aussi intéressante dans ces critères-là, parce qu'on va lui demander justement de lire quelque chose de différent, donc un énoncé qui sera plus concis, des mots plus courts, donc plus faciles à lire, des phrases plus courtes, donc il va moins se perdre dans la longueur syntaxique d'une phrase. Ça, c'est une reformulation écrite qui est intéressante pour les enfants dyslexiques. Ensuite, la reformulation orale, quand on dit, par exemple, avant une interrogation, le professeur lit les différents énoncés, les différentes consignes qu'il y a à accomplir, c'est intéressant, sauf que ça va être intéressant pour la première consigne. Lorsqu'on lit d'emblée toutes les consignes d'un seul coup, l'enfant dyslexique, il doit se rappeler du coup de toutes les consignes. Or, l'enfant dyslexique a généralement des difficultés de mémoire verbale, donc de se souvenir exactement de ce qui a été dit. Et il vaudrait mieux à ce moment-là que quelqu'un lui lise la consigne à chaque exercice, ce qui est difficile de réaliser en classe. Et c'est là qu'intervient l'ordinateur aussi, lorsque l'enfant sait s'en servir. Il peut réécouter par l'ordinateur la consigne qui va lui être lue.
Très bien. Donc, si j'en reviens à la reformulation et qu'il y a tout un dispositif comme ça qui serait mis de la part des professeurs, ça peut apporter quand même ça peut lui redonner une confiance à l'élève.
Ça va lui redonner une confiance parce que ça va lui permettre de se concentrer davantage sur le contenu de son travail, de la scolarité, et moins sur la forme. Sinon, il reste coincé par la forme. On a des enfants qui généralement se trompent dans l'exercice, pas parce qu'ils n'ont pas travaillé ou parce qu'ils n'ont pas compris, c'est simplement qu'ils ont mal lu l'énoncé, ils ont imaginé une autre consigne et ils ont fait autre chose que ce qu'on leur demandait.
Oui, donc après ils sont partis sur une autre question.
Exactement.
Qui n'avait, d'accord.
Exactement.
Je me tourne vers vous, Madame Benali Moreau. Le tutorat, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que Maïssa bénéficie d'un tutorat, c'est-à-dire que un camarade de classe qui lui sert, si je puis dire, de secrétaire et vérifie la prise de notes? Ou est-ce que c'est pas mis en place et que c'est peut-être dépasser ce type de...
Alors, ça n'a pas été mis en place officiellement, mais quelques camarades de Maïssa l'aident beaucoup, puisque c'est grâce à leur cahier qu'elle recopie tous les jours, à 5h du matin, tous les cours qu'elle
Donc,
a fait
la
veille.
Il y a une solidarité quand même.
Il y a une solidarité de la part de ses camarades, ça, vraiment, je remercie d'abord tous ses camarades de l'aider. En plus, cette classe où elle est Maïssa, c'est une classe avec option équitable. Ça veut dire que tous les mardis après-midi, les enfants vont faire de l'équitation dans une écurie près de Lunel. Et ces enfants, il y a surtout des filles, c'est les filles. Je crois qu'il n'y a que des filles qui vont faire de l'équitation, si je ne me trompe pas. Et il y a une solidarité entre elles et elle soutient vraiment Maïssa dans sa scolarité et ça lui rapporte beaucoup. Voilà.
Oui, un mot,
Au niveau du tutorat, c'est quelque chose qu'on met en place aussi plus facilement dans les petites classes, au niveau du primaire, qu'on essaie d'estomper progressivement.
Oui, pour laisser place à l'autonomie.
Voilà, ça peut être aussi un tutorat au moment de noter les devoirs dans les classes primaires, où si l'enfant dyslexique a du mal à écrire, un élève va pouvoir écrire dans son cahier de texte les devoirs. Donc il y a tout ça qui est mis en place. Le tutorat aussi, lorsque c'est nécessaire et lorsque ça peut être mis en place, une auxiliaire de vie scolaire individuelle ou plutôt collective aujourd'hui va pouvoir aider l'enfant lorsqu'il est en grande difficulté, qu'il bénéficie de ce système d'aide. Mais on est bien dans des aides auxiliaires qui demandent donc une tierce personne. Ça veut dire simplement que l'autonomie de l'enfant est quand même remise en cause. Donc c'est pour ça que l'ordinateur, lorsqu'il est correctement utilisé par l'enfant, et ça demande un apprentissage, va lui permettre d'être plus autonome dans un projet d'avenir socio-professionnel. Il faut toujours avoir ça en tête, ce qu'on met en place...
Ça contribue fortement à son
exactement.
Autonomie.
Exactement, c'est-à-dire que souvent moi j'entends des professeurs ou même des parents qui disent « Oui mais l'ordinateur c'est pas un peu trop au collège, on a l'impression que l'ordinateur est réservé aux professionnels, aux adultes, etc. » ou aux étudiants plus âgés. Et de ce fait, il préférait le faire écrire, ce qui est quand même plus fatigant. L'ordinateur, c'est dès le collège, c'est aussi l'habituer à mettre en place un système de travail qui le rendra plus autonome pour son avenir. À venir dans sa scolarité, lorsqu'elle se poursuit, et à venir vraiment socio-professionnel. C'est très important.
Dans sa vie professionnelle, oui. Un mot sur la psychanalyse. La psychanalyse qui s'est intéressée, elle a proposé des voies de compréhension liées à l'affect, d'après Françoise Dolto. Qu'en pensez-vous, Dorian Wittmann ?
Alors j'aurais du mal à vous répondre sur tout ça, puisque sans nier la dimension psycho-affective, puisqu'on l'a dit au tout début, elle est très importante. Des études ont pu montrer qu'un environnement porteur permettait à l'enfant d'avoir de meilleures performances, de mettre en place de meilleures choses dans sa scolarité. Sur la psychanalyse elle-même, je ne pourrais pas vous apporter de réponse précise là-dessus. Simplement, elle peut être une aide probablement complémentaire lorsqu'elle est justifiée. À elle seule, la psychanalyse ne va pas expliquer ni résoudre la dyslexie. Elle peut apporter certainement un plus, comme les autres disciplines.
Certaines réponses, mais bon.
Après, je serais mal placé pour pouvoir vous répondre plus précisément.
Un mot également sur Ronald Del Davis, qui lui a, sur une expression comme ça subjective, il est auteur d'une méthode de correction de la dyslexie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur son travail ?
Alors, quelle est cette méthode ?
C'est sur la désorientation que créent les symboles, les mots dépourvus de représentation mentale, voire pensée visuelle.
Alors là, comme ça, cette méthode ne me dit rien, donc j'aurais du mal à vous en parler. Ce nom ne me rappelle pas grand-chose. Dans les méthodes, on peut parler par contre des méthodes de rééducation ou d'intervention auprès des personnes dyslexiques. Il y a différentes méthodes, c'est pas la méthode en elle-même qui va changer tout dans la prise en charge, dans l'intervention auprès des personnes dyslexiques, mais c'est le courant dans lequel on s'implante, le point de vue avec lequel on va regarder l'enfant dyslexique pour pouvoir l'aider. Là, vous me parlez donc d'une désorientation.
Désorientation, donc, il explique la dyslexie par la désorientation que créent les symboles, les mots dépourvus de représentation mentale.
Je ne sais pas exactement quelle est cette méthode. Dans la représentation mentale, ce qui est certain, c'est que chez un enfant dyslexique, on l'a vu pour les lettres, mais c'est souvent vrai chez les plus jeunes dans les dessins, l'organisation de ce qu'il voit est perturbée, donc l'orientation, la direction des objets qu'il peut observer dans sa représentation mentale ne va pas se fixer exactement comme elle est dans la réalité, ce qui fait qu'il en garde une image qui n'est pas exacte, ce qui fait que dans les mots, notamment, un mot va être lu à la place d'un autre, une syllabe va être lue à la place d'une autre. Après, je ne sais pas ce que cette personne
Disons que c'était... Je le cite. Ces périodes de désorientation sont caractérisées par une impression d'avoir le mal de mer, impression de bouger. La personne peut à la limite avoir des nausées, ce qui va l'inciter à bouger, se lever, taper du pied, etc. Pour contrer l'effet désagréable de ce qu'il peut ressentir.
Oui, en partie en tout cas, après je ne sais pas ce qu'il propose au niveau d'intervention, ça c'est plus ce qu'il observe pour cliniquement chez les enfants dyslexiques ou chez les personnes dyslexiques. Au niveau de l'intervention qu'il propose, je ne sais pas.
D'accord.
Après il existe effectivement des outils qui permettent de mettre en place des conditions de travail plus favorables aux apprentissages, à la fois au niveau de l'attention, à la fois au niveau du corps, sur la posture du corps, et qui vont mettre l'enfant dyslexique dans une position où il pourra mieux appréhender ce qu'il fait au niveau
de l'intervention de l'ergothérapeute.
Alors d'où l'intervention de l'ergothérapeute, du psychomotricien, effectivement.
Très bien.
Tout à fait.
La neuropédiatrie. Est-ce qu'elle apporte aussi des outils pour faciliter comme ça les différents apprentissages et est-ce que ça ça semble bien. Enfin, disons que est-ce que la neuropédiatrie est complète aussi, donc ce collège hein, entre l'ergothérapeute, vous l'orthophoniste.
Oui, parce que nous, l'ergothérapeute, le psychomotricien, l'orthophoniste, l'orthoptiste, nous sommes des auxiliaires médicaux. Mmh. Le neuropédiatre, donc la neuropédiatrie également, la pédopsychiatrie, sont des disciplines médicales qui ont bien sûr beaucoup apporté à justement mieux comprendre la dyslexie. Au tout début, je vous disais qu'au départ, on considérait que c'était un trouble psychologique, hein, un trouble psychiatrique. Toutes ces disciplines ont permis de montrer à travers des études, des recherches, que le fonctionnement cognitif de l'enfant était différent et du coup ont permis de créer, de mettre en avant des outils qui permettent de mieux cibler la dyslexie, de mieux la diagnostiquer tout simplement. Donc un diagnostic de dyslexie va se faire conjointement entre les différents auxiliaires médicaux mais également une évaluation psychométrique qui est réalisée par un psychologue clinicien et un médecin qui va pouvoir observer également différents faits cliniques, que ce soit le neuropédiatre, que ce soit le pédopsychiatre.
Très bien. Madame Zoubida Benali Moreau, Maïssa alors, ses projets?
Alors, Maïssa, elle a beaucoup de projets et je pense que c'est ça qui va la sauver. D'abord, c'est une passionnée du cheval et de l'équitation en général. Voilà, et puis elle a déjà un projet professionnel
qui lui tient à cœur.
Qui tient vraiment à cœur depuis toujours. Et auxiliaire de péricultrice auprès des enfants. Voilà, elle part déjà pour un CAP de petite enfance et même plus tard, après 25-30 ans, elle se projette dans l'avenir. Et c'est ça qui est extraordinaire chez elle, c'est qu'elle ouvre sa propre crèche. Alors voilà. Alors,
oui,
elle
est ambitieuse,
entreprenante. Voilà, mais j'espère. Mais le plus important aujourd'hui, c'est surtout l'accompagner jusqu'à l'âge de 16 ans, parce qu'il faut qu'elle finisse l'école. L'école était obligatoire à l'âge de 16 ans. Et tous les jours, elle me dit mais moi, je ne veux plus aller à l'école. Et on va tout faire tous ensemble pour qu'elle reste à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Et après, on verra qu'est-ce que l'éducation nationale nous propose pour son avenir et avoir un diplôme.
Bien, merci Dorian Wittmann de nous avoir éclairés.
Merci à vous.
Je rappelle que vous exercez à Juvignac et merci d'avoir accepté de participer à cette première de Handi+, à son baptême, si je puis dire, qui sera, je l'espère, le début. Le lapsus d'une longue série d'émissions sur le handicap. Merci Zoubida Benali Moreau d'avoir répondu présente et surtout d'apporter votre témoignage au nom de toute l'équipe. Nous souhaitons plein de belles choses à Maïssa qui, je suis sûr, saura être à la hauteur de ses ambitions.
Merci pour elle.
Le prochain Handi+, le deuxième vendredi du mois prochain, de 11h à midi, et nous serons donc le vendredi 9 mai, nous aurons le plaisir de recevoir la Fédération des aveugles et amblyopes de France, du Languedoc-Roussillon. FM+, fidèle à sa devise, la différence nous rassemble. Merci Dorian Wittmann.
Merci à vous.
Merci Zoubida Benali Moreau. Benali Moreau, pardon.
Merci à vous.
À bientôt. Bye bye.